Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission consacrée au livre en compagnie de Pascal Blasi, un livre par semaine. Alors, cette semaine, Pascal a choisi pour vous et pour nous, bien sûr, La saison des mensonges de Karen Lebert aux presses de la Cité. On accueille Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour, et bien retrouvons Candice qui revient dans la ville qu'il a vue grandir. Elle y retrouve ses souvenirs, mais apporte avec elle les fantômes de son passé. Ma chère Candice, tu seras sans doute surprise de recevoir de mes nouvelles de l'étranger, et encore plus d'Amérique du Sud. Comme tu le sais, je suis un piètre écrivain, mes envolées sont plutôt verbales. Aussi, je vais faire court. J'ai rencontré quelqu'un et décidé de m'installer dans le pays d'origine de la personne qui partage désormais mon existence. Elle s'appelle Paloma. Tu te souviens peut-être d'elle ? Si je prends la peine de t'en parler, c'est que nous comptons, Paloma et moi, nous marier cet hiver, l'été, ici, à Rio. Et il se trouve que Paloma est enceinte. En t'envoyant cette lettre, je sais que je fais preuve de faiblesse, mais nos relations sont depuis longtemps entachées de tant de non-dits, de rancunes et de drames que je crois préférable de te prévenir par courrier. Ma chère Candice, je ne doute pas que de ton côté, tu parviendras à reconstruire ta vie. Ce retour à Lyon me semble la première étape d'une renaissance. Je ne t'oublierai jamais, mais je pense qu'il vaut mieux à présent effacer de nos répertoires nos numéros de téléphone respectifs. Nous avons été liés par un grand bonheur qui s'est transformé en malheur et garder un quelconque lien me paraît vain et même nuisible. J'espère que tu ne m'en voudras pas de ma franchise. Je te souhaite le meilleur et t'embrasse. Fabrice. La jeune femme laissa la lettre retomber sur ses genoux. Son regard se fixa sur les chatons qui se montraient très indisciplinés, accumulant les bêtises. Ils avaient entrepris de grimper au rideau grâce à leurs griffes acérées et Candice ne s'inquiéta même pas pour le fragile tissu en lin. En recevant cette nouvelle, elle avait l'impression que quelqu'un lui avait claqué la porte au nez, l'abandonnant dans une pièce vide, froide, inhospitalière. Comment osait-il ? Que Fabrice refasse sa vie était une chose qu'elle était susceptible d'accepter, mais qu'il fonde une famille, se réjouisse d'être père, elle ne pouvait y penser sans un immense sentiment d'injustice. Il avait eu raison de lui envoyer cette lettre, car elle se serait sans doute montrée vindicative au téléphone. Il la connaissait assez pour deviner sa réaction et s'en préserver, le salaud. Après s'être séparé de Candice, Fabrice avait eu de nombreuses et courtes liaisons. Elle se bornait à sourire avec ironie en constatant que l'âge des prétendantes ne dépassait jamais la trentaine. Elle présentait toutes le même profil, blonde, grande et filiforme. Candice avait été surprise en rencontrant Paloma, une brune plantureuse, à l'opposé des critères de beauté de Fabrice. Eh bien, il avait décidé de refaire sa vie avec une femme qui n'était pas son genre, comme Charles Swann dans « À la recherche du temps perdu », et réussissant même à maintenir Candice à distance en quittant l'Europe. Tout en lassant ses baskets pour se vider la tête avec un jogging, Candice tenta de feindre l'indifférence alors que son chagrin était bien réel. Elle avait même attendu plusieurs jours avant de trouver le courage de lire la lettre de Fabrice. Comme elle ne travaillait pas ce mercredi, elle décida de s'activer toute la journée afin d'empêcher la tristesse de triompher. Après un coup d'œil aux trois chatons qui dormaient dans leur couffin, le quatrième ayant été emmené par Valentine et le troisième bientôt adopté par Astrid contre toute attente, elle s'élança à longue foulée sur la place Bansrade vers la rue de la République, puis celle d'Enfer. Elle longea une vieille bâtisse à colombages dans laquelle avait logé le compositeur Maurice Ravel, puis emprunta la rue de la Rougemare jusqu'à Lyons-le-Bas, la partie la plus ancienne du village, située en contrebas du centre-ville. Enfin, elle tourna vers le square des Trois Moulins, là même où elle s'était assise avec Valentine et ses enfants après la visite de l'exposition pour suivre un chemin qui bordait le parc du couvent des Cordeliers et la forêt. L'ombre et la fraîcheur que celle-ci dispensait lui firent du bien. Quelques personnes promenaient leurs chiens. Candice s'évertuait à ne pas ralentir son rythme sans pour autant les déranger dans leur balade. Un vieux monsieur lui adressa des paroles d'encouragement auxquelles elle répondit par un simple geste, tout entière tendue vers son but, le front plissé par la concentration, la sueur trempant son t-shirt. Et soudain, à son obsessionnel désir d'aller vite vers elle ne savait quelle destination, elle se substitua à une envie tout aussi impétueuse de calme. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette allure effrénée, et elle comprit qu'elle coupait pour échapper à la réalité. Ne devait-elle pas enfin regarder le passé en face, ne plus se cacher derrière un masque de défiance, livrer ses secrets ? Nous sommes en train de lire « Les saisons du mensonge » de Karine Lebert. Elle modéra alors sa cadence, puis stoppa net en se laissant tomber sur une souche. Le chemin était plutôt une sente de terre battue qui semblait préservée de la cacophonie du monde. Levant les yeux, la jeune femme aperçut un filament de ciel bleu et son souffle qu'elle venait de récupérer lui manqua à nouveau. « Non, s'exhorta-t-elle, ne pas se laisser contaminer par les mauvais souvenirs. » Elle abaissa le regard et contempla avec reconnaissance les chevaux qui broutaient l'herbe jaunie dans le pré. Cette vision bucolique ramena la sérénité dans tout son être. Bien que fille unique, elle avait eu une enfance heureuse à Lyons-la-Forêt, entre deux parents aimants et compréhensifs qui l'avaient laissée libre de jouer dans le village avec ses amis, l'empêchant de souffrir de solitude. Elle était allée en maternelle et primaire à Lyons, avant de se rendre au collège aux environs de Rouen, se levant aux aurores afin de prendre son quart. Son école existait toujours à Lyons et elle songea qu'elle passerait bien saluer son ancienne institutrice, Madame Moreau. Elle devait atteindre l'âge de... Candice calcula mentalement, voyons, pas loin de 80 ans. La jeune femme espérait qu'elle n'était pas en trop mauvaise santé et avait conservé un esprit éclairé, car elle souhaitait lui parler de la découverte des sépultures d'enfants à Lyons. Cette histoire continuait à l'intéresser, alors même qu'elle n'avait pas poursuivi ses recherches, accaparée par son nouveau poste. À présent que les hésitations du début avaient disparu, elle comptait mener à bien son enquête. Le mystère ne pouvait que lui plaire et il lui permettrait de garder un lien avec son premier métier. D'autres raisons la motivaient aussi, auxquelles elle ne pouvait penser sans avoir envie de pleurer. Candice se leva et continua la promenade sans se hâter. Elle débouchait sur la route secondaire qui menait aux Ténières, un lieu dit de Lyons-la-Forêt. La jeune femme prit la direction contraire, ce qui l'amena rue de la Rigole, puis chez elle, où elle se désaltéra avec un jus d'orange. Un coup d'œil à la lettre de Fabrice, laissée sur une chaise, la décida à agir. Elle s'en empara et la déchira, sans la relire, après quoi elle la jeta à la poubelle. Elle avait trouvé le numéro de téléphone de son institutrice dans l'annuaire et préférait l'appeler plutôt que de frapper à sa porte à l'improviste. Elle ignorait même si la vieille dame se souvenait d'elle, car cette dernière n'était pas présente lors de l'enterrement de sa mère. Quand elle déclina son nom, Violaine Moreau poussa une exclamation de joie et se déclara ravie de la recevoir. Elle s'excusa alors de n'avoir pas pu assister aux funérailles, ayant été opérée de la cataracte le jour même. En raccrochant, Candice souriait, même si elle était consciente qu'il lui faudrait évoquer son passé et donc, comme d'ordinaire, faire disparaître des pans entiers de celui-ci. Le rendez-vous était fixé au lendemain. Nostalgique, la jeune femme opta pour une fouille du grenier, lieu qui avait hanté ses rêves petites. Ses parents lui en interdisaient l'accès en raison du plancher peu solide par endroits et des nombreux objets remisés là qui pouvaient blesser une enfant surexcitée à l'idée de trouver un trésor. Et c'était ce qui remplissait la fillette de désespoir et d'amertume. Elle avait la conviction qu'il existait un trésor caché sous les combles. Mais voilà pourquoi on refusait de l'y laisser pénétrer. Sous le mot « trésor » se dissimulaient des visions de robes de princesses, de poupées anciennes, comme elle en avait admiré derrière la vitrine de l'antiquaire de Lyons. Aujourd'hui, elle allait enfin en avoir le cœur net, songea Candice. Elle se rendit compte que l'impatience la gagnait, comme si ses fantasmes de jadis ne l'avaient jamais quittée, ce qui la fit rire. Pour être honnête, elle devait reconnaître qu'elle n'était pas loin de penser qu'il y avait bien une sorte de trésor dissimulé dans un coffre entre deux poutres. Non pas quelque chose qui eût une valeur financière, mais plutôt un journal intime qui lui dévoilerait les secrets de ses ancêtres, ou bien encore des photos qui mettraient en lumière des secrets de famille. Quels sont les secrets de Candice? Quel est son avenir? Pour poursuivre l'aventure, je vous invite à lire « Les saisons du mensonge » de Karine Lebert aux Presses de la Cité.